Le retour de boulevard.
Un show léger, léger, léger. Tellement léger que je pense que je vais prendre une puff d'hélium.
À boulevard 102.
Boulevard.
On profite de tous les instants avec vous sur les ondes de boulevard 101. Jeff Fortin qui est là, alias Beau Bouclette.
Beau Bouclette, le baby.
Fallait être là il y a 5 minutes. Tom Gauthier aussi qui est là, qui est dans ses derniers 1000 parce que Tom, si vous avez manqué la nouvelle, va nous quitter dans les 2 prochaines semaines.
Exact.
Vers de nouvelles... comment dire, aventures, entre autres, s'en va à Londres.
Je m'en vais en voyage en Angleterre, les amigos.
Wow.
C'est tellement hâte. C'est pas mal et tout booké. Il reste des petites affaires, mais la sortie de job va avec un beau voyage en Angleterre pour 2 semaines.
Quand même hallucinant. Tu pourras pas faire ça en auto, chose certaine. Il va falloir que tu prennes l'avion puis tu vas déplaire à des gens. Parce que ça aussi, c'est critiqué, le nombre de fois qu'on prend l'avion annuellement. Puis je pense que ça sera dans le talk of the town dans quelques années. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je sais pas si un jour, on va pouvoir avoir des avions électriques ou un genre d'avion qui est pas à gaz d'avion, justement. Mmh. Dans ma tête, ça n'existe pas, mais plein de choses qui n'existaient pas, qui n'étaient pas dans ma tête avant. Là, mais on va quand même en discuter de tout ça dans les prochaines années. C'est certain qu'il y a des ingénieurs ou des gens qui vont se pencher sur ce genre de projet-là. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui font réagir dans l'actualité ces temps-ci, et c'est l'obligation d'avoir une voiture électrique d'ici 2035. Il va y avoir une cessation des subventions, il va y avoir un renouvellement complet de tout ce qui est flotte automobile chez les concessionnaires. Il y a une façon de revoir les choses aussi du côté d'Hydro-Québec qui est cruciale, qui est complexe, qui est loin d'être terminée, qui est inquiétante aussi pour les citoyens et les citoyennes. Puis j'ai pas envie de faire une campagne de peur ou d'utiliser des tactiques de peur comme certains disent, mais ça reste que quand on a une panne électrique, on voit les dommages que ça peut causer parce qu'on n'est peut-être pas à point à ce niveau-là. Il reste quelques années, c'est peut-être ce que disent les défenseurs de cette nouvelle politique-là. On n'est certainement pas contre la vertu. On a envie de faire attention à notre environnement. On a envie de prendre toutes les possibilités pour justement avoir un air qui est meilleur, un beau futur pour les enfants aussi qu'on fait naître sur cette planète-là. Mais Louise Lévesque, directrice des politiques de mobilité électrique Canada, est au bout du fil et elle a son mot à dire parce qu'elle a l'impression qu'on jase beaucoup plus avec les manufacturiers qu'avec la gang, entre autres, des politiques de mobilité électrique Canada. Et elle est avec nous cet après-midi. Bonjour, Mme Lévesque.
Bonjour.
On a vu le texte aujourd'hui dans le Journal de Québec qui est titré « Interdiction des voitures à essence en 2035 ». Les craintes des manufacturiers automobiles sont des tactiques de peur. Qu'est-ce que vous définissez par « tactique de peur » ?
Écoutez, ça fait référence au fait que depuis je pense que ça fait 75 ans là, qu'on entend là, les mêmes critiques et les mêmes craintes qu'ils essaient de semer à chaque fois que les gouvernements veulent réglementer. Mais si je reviens dans un temps plus court, en 2016, quand le gouvernement du Québec a voulu mettre en place une norme zéro émission pour avoir plus d'inventaire de véhicules électriques au Québec. L'objectif-là, c'est la barre est trop haute. Et puis, 8 ans plus tard, bien, on constate que non seulement on a atteint les objectifs, mais on les a dépassés. Donc, on a entendu ça avant, mais il n'y a aucune raison qui fait qu'on ne puisse pas continuer sur cette tendance-là et atteindre et même dépasser les objectifs.
Vous parlez bien sûr du côté de la médaille où on est enclin à avoir cette façon de faire les choses d'ici 2035. Vous n'avez pas quand même quelques soucis à être certaine avec votre gang aussi chez Politique de mobilité électrique Canada par rapport à cette implantation-là qui, 2035, c'est rapide, puis on voit les déboires avec Hydro-Québec, on voit qu'on n'est pas prêt côté infrastructure, on sait que les négociations pour avoir de nouveaux barrages et autres, c'est un petit peu complexe. Il y a des communautés quand même qui ont à voir là-dedans aussi. Vous n'avez pas une retenue quant à certains objectifs qui pourraient être troublés avec la date d'échéance?
Non, parce qu'avec une norme BZE qui réglemente le marché, ça nous permet d'avoir une prévisibilité du marché. Présentement, l'infrastructure de recharge est en train de se construire depuis 2014. Il y a eu beaucoup de progrès là, dans les 10 dernières années. Et à mesure que la flotte de véhicules électriques au Québec va grandir, eh bien, on fera les installations nécessaires pour répondre aux besoins de recharge des gens qui se déplacent en véhicules électriques. Quant à l'augmentation de la demande électrique, il faut savoir qu'il n'y a pas seulement les véhicules électriques qui font partie de cette augmentation de demande. Il y a une croissance de la population, il y a un virage vers le chauffage électrique et d'autres modifications dans la demande. Et pour ça également, ben, Hydro-Québec, effectivement, il planifie ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins là, à mesure qu'on avance dans le temps. Il faut savoir également que le véhicule électrique, c'est une nouvelle demande, mais c'est aussi une demande qui est flexible. Hein. On pourra mettre en place des programmes qui feront que les gens vont plutôt recharger la nuit à la maison plutôt qu'à 5 heures en arrivant. Donc, on est capable de programmer nos voitures pour changer, pour sélectionner le moment où pour réellement se recharger.
Mais vous savez que les gens n'ont pas nécessairement les moyens hein, de tous se payer un véhicule électrique. Ça, c'est à considérer. Même si on souhaite, si on ne peut pas y accéder, on fait partie. Alors, de la collectivité. Alors,
je pense que l'abordabilité là, des voitures là, s'applique à l'ensemble des types de voitures. Je ne sais pas si vous savez, là, mais le prix moyen de vente des véhicules, même des véhicules toutes catégories confondues, incluant les véhicules à essence, est aujourd'hui de plus de 66 000 $ Alors que il y a des douzaines et des douzaines de modèles de véhicules électriques qui sont disponibles en dessous de ce prix-là. Donc le comparable de prix là se rapproche de plus en plus et on a encore accès à des subventions pour ceux qui ont besoin là d'un petit coup de pouce pour faire cette acquisition.
Mais pas pour longtemps encore les subventions là. Tu sais, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont importantes à prendre en compte. Est-ce que vous en prenez compte de malgré tout, d'engrenages qui sont à huiler, d'engrenages rouillés dans le projet, vous voyez aucun obstacle?
Écoute, il y a des défis, mais je dirais pas là, qu'il y a des obstacles. Technologiquement, il n'y a pas d'obstacle à l'adoption généralisée là, de véhicules électriques. Au niveau des recherches, comme j'ai expliqué, on fait les investissements nécessaires et ça sera de plus en plus intéressant pour l'industrie d'avoir, pour les gens d'affaires aussi, d'avoir des bornes de recharge parce qu'il y aura de plus en plus de véhicules qui vont les utiliser, ça va attirer les gens. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur de l'innovation. Il faut pas s'avouer vaincu avant d'avancer. Là. Si on avait écouté cet argument-là il y a 8 ans, en s'avouant vaincu d'avance, bien, on ne serait pas rendu à plus de 20% de ventes en véhicules électriques aujourd'hui.
Madame Lévesque, on s'attendait à une hausse des ventes électriques de 40% aux États-Unis par année, mais l'an passé, ça a été seulement de 20%. Qu'est-ce qui explique que, malgré toute la publicité qu'on fait autour de ces véhicules-là, puis les bienfaits qu'on mentionne des véhicules électriques, on n'ait pas une hausse marquée, puis on n'ait pas la hausse espérée?
Écoutez, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est le marché des États-Unis. En plus, là, c'est très différent. Il y a le taux d'intérêt, des taux d'intérêt qui ont énormément augmenté dans les dernières années, qui a peut-être freiné l'acquisition de nouveaux véhicules. Il reste quand même que les ventes de véhicules électriques ont augmenté, alors que les ventes généralisées des véhicules ont tendance à se retirer, peut-être en raison de certaines variables économiques, comme je viens de mentionner. Mais cette même observation-là ne s'applique pas nécessairement au marché du Canada et certainement pas au marché québécois.
OK, mais n'empêche qu'on veut quand même augmenter rapidement de 2 millions de véhicules électriques au Québec, autrement dit, de nombre d'acheteurs qui viendraient acheter un nombre de véhicules électriques. Moi, je trouve ça très osé comme estimation, autrement dit, puis j'ai peur qu'on se retrouve dans la même situation que les États-Unis.
Cette barre de 2 millions, là, on va l'atteindre probablement plus vite que ce que le gouvernement, dans les objectifs du gouvernement.
Et qu'est-ce qui vous fait croire ça?
Parce que les objectifs à court terme qui est plus facile à atteindre.
Oui, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Côté chiffres, statistiques ou autre? Parce qu'on a le goût d'avoir cette conversation-là, mais il manque un peu de fioul. C'est comme pour les assurances qui sont vraiment plus chères pour un véhicule électrique. Quand il y a aussi un accident, bien, la voiture est automatiquement perte totale. Est-ce qu'on va s'adapter à ça? Parce que ça va créer énormément de déchets. T'sais, les accidents, on ne peut pas prévoir qu'il y en aura moins. On peut faire en sorte sûr qu'on tente qu'il y en ait moins, mais il y en a toujours eu, il y en aura encore. Depuis Belle Lurette, c'est le cas. Il y a des choses à considérer, à discuter qui ne le sont pas en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait avec les assurances qui sont plus chères, avec les pertes totales de voitures qu'on envoie du côté des vidanges?
Les voitures ne vont pas au vidange, mais effectivement, c'est pas vrai que tous les accidents mènent à une perte totale au niveau des véhicules électriques. C'est seulement dans les cas où la batterie a été gravement atteinte.
Mais pour la majorité, ce qui a été comptabilisé jusqu'à maintenant, pour la majorité, c'est le cas. Ça a été perte totale.
Et puis ces batteries-là et ces véhicules-là ne sont pas envoyés nécessairement là, dans un dépotoir.
Mais le point est, il faudrait réfléchir à ça aussi, là. Parce que c'est une complexité pour l'environnement malgré tout. On n'est pas rendu à avoir réfléchi à ça, à cette solution-là. Puis c'est un peu ce qui inquiète aussi.
La question des batteries, comme je vous disais, ces batteries-là sont recyclables. Les matériaux critiques qui sont à l'intérieur sont tout à fait récupérables. On a des industries au Québec qui en font. Donc, au niveau environnemental, ce n'est pas nécessairement un problème plus que pour les véhicules électriques.
Pour vous, vous ne voyez pas une différence là, d'une perte totale versus une réparation? Il y a ça quand même qui pourrait être réfléchi à comment réparer au lieu de condamner. Il y a des questionnements par rapport aux assurances aussi qui montent avec le coût de la voiture. Si à un moment donné, ça devient extrêmement populaire, obligatoire, il y aura certainement peut-être des industries qui pourront baisser leur coût. Oui. Des fois, on se pose la question aussi sur l'exploitation des ressources mm-hmm. électriques. Tu sais, dans les pays où on est capable d'extraire certains besoins électriques en matière première, il y a beaucoup de conflits en ce moment au niveau géopolitique. Il y a des questions importantes à aborder aussi lorsqu'il y a des pannes électriques, par exemple. Nous, ici à Québec, quand on l'a vécu il y a 2 ans, dans le temps des fêtes, il y a des gens qui ont été cloués à la maison parce qu'il y avait 2 voitures électriques et il n'y avait plus de possibilité de les charger. Il y avait des enfants en bas âge qui nécessitaient d'avoir justement peut-être un transport vers un centre hospitalier et autres. Vous allez me dire, il va y avoir des ambulances, mais c'est la même affaire. À un moment donné, les véhicules seront tous électrifiés. Il y a des choses quand même qui ne sont pas données côté information. On est en 2024, 2035, c'est dans 10 ans environ. Vous pensez pas qu'on devrait déjà avoir ces conversations rassurantes-là et que ça enlèverait peut-être des critiques, ça enlèverait peut-être...
Les craintes
ou des gens qui s'opposent.
Oui, vous mettez beaucoup de choses dans le même panier. Là. Je vais essayer de répondre à une partie.
Mais en gros, c'est le questionnement général sur des situations précises.
De panne d'électricité, là, de personnes qui ont été clouées à la maison parce que leur véhicule ne pouvait plus avancer. Règle générale, quand on recharge à la maison, tous les jours, notre voiture est pleine. Donc, c'est peut-être un cas très spécifique où on revenait tout d'un coup d'un long voyage et puis on est à zéro, puis même à ça, on le serait pas. Et souvent, ça m'est déjà arrivé d'avoir une panne de courant, j'ai des voitures électriques et pas loin de chez moi, je peux rouler, je peux aller me charger à une borne publique parce que c'est pas une panne là, qui est parmi tout, c'est une ville au complet, là. C'est très, très rare. Et même à ça, s'il arrive une panne, je vais avoir plusieurs jours de possibilités là, de déplacement avec ma voiture électrique.
Mais faut, donc, ça veut dire qu'il faudrait prévoir, puis c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours la facilité de prévoir. S'il faut aller chercher des génératrices à essence, on est un peu perdant. Puis l'autre affaire, on l'a vécu ça aussi au Galerie de la Capitale, il y avait des bornes, puis il y a eu une énorme congestion. Ça a créé des problématiques lors de cette panne électrique-là. C'est pas une question de s'opposer, c'est une question de se dire, est-ce qu'on peut avoir des discussions où on a des réponses aux questions pour embarquer dans le même bateau, pour enlever des craintes, pour faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui embarquent dans le mouvement.
C'est certain que c'est bon d'avoir cette conversation-là, mais je vous fais remarquer là, que les pompes à essence sont également en panne quand il y a une panne d'électricité. Et les gens trouvent d'autres solutions. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rouler électrique parce que de temps en temps, on a une panne qui dure quelques heures ou quelques jours.
On aurait aimé ça continuer
de développer. C'est important de pouvoir adresser ça. Il y a certaines bornes de recharge qui ont également des batteries de réserve qui permettent quand même de faire de la recharge, même en panne.
Faut qu'on vous coupe parce qu'on aura cette conversation-là à nouveau. Il nous reste 40 secondes à l'émission, mais c'est certain qu'on vous reparle de toute manière. C'est tellement d'actualité. Merci beaucoup, Mme Louise Lévesque,
Merci.
Directrice des politiques de mobilité électrique Canada. Hey, c'est une conversation qu'on aimerait ça avoir plus de temps. Là, quand
oui,
même.
Vraiment plus de temps.
Mais je pense qu'elle est venue fâchée. est venue en opposition avec ce qu'on disait, mais on cherche juste des réponses à certaines questions, défis
exactement.
Qu'on rencontre.
Elle voulait pas vous laisser dire, OK, c'est, ils ont raison. Elle avait tout le temps un petit quelque
mais
chose.
Mais c'est pas une question d'avoir raison,
non,
peu
mais
importe
comprends.
Qui. C'est
mais
une question d'avoir que des réponses aux
moi,
questions.
Moi, je suis dans le même angle que toi là-dessus, c'est que quand j'écoute le discours, exemple, des manufacturiers
ouais.
qui est sorti hier, c'est basé sur des faits. Ouais. Écoute, ma technologie ne sera pas développée. L'électricité au Québec, on ne sera pas rendu là.
Puis on peut être critique parce que
oui,
c'est des faits aussi.
Mais c'est des faits, tandis que là, c'est plus un discours, je vais le dire comme ça, t'sais, un discours utopique. Ah, tout va bien aller.
Mais c'est ça qui m'inquiète plus,
mais
moi.
Mais c'est pas tout qui va bien aller
je vais
en faisant rien.
Je veux avoir la discussion.
Exactement.
Hey, les gars, c'était bien le fun.
Cool.
On se retrouve demain.
Salut, demain.
Jeff Fortin, Tom Gauthier, moi-même, Pascal CV. On reprendra la discussion sur parler à la troisième
ben
personne.
Oui.
On est parti dans nos lubies. Hey, bonne fin de journée à tout le monde. Vous êtes à Boulevard 102.
Salut.